jusqu'à 11h, vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Bon dimanche. Comment allez-vous en ce dimanche matin, 25 avril, 9h05? C'est de la pluie pas mal partout. Ça ne veut pas dire des précipitations abondantes, mais à Montréal, de la pluie 16. Gatineau 15 avec des averses et possibilité d'averses à Sherbrooke avec 16, tandis qu'à Trois-Rivières, quelques averses seulement. Après un très beau samedi, hier, c'était absolument magnifique. Une heure bien remplie, nous allons parler de ce livre de bien manger en camping, celui de Manon Lapierre, un livre magnifique. Et si vous campez et vous faites du caravaning cet été, ce livre-là, vous devez l'avoir comme compagnon à bord de votre roulotte, de votre caravane à sellette, de votre autocaravane.
Tu vas pimper tes repas?
Oui, je vais pimper mes repas, très certainement, Thérèse. Un des plaisirs de faire du caravaning ou même du camping, c'est de découvrir vos talents, même si, comme moi, vous n'en aviez pas au départ, vos talents de cuisinier.
Mais je vais dire une chose. Tu m'as souvent dit « Ah, j'ai pas de talent en cuisine et tout ça. » Mais à chaque fois que tu nous envoyais les photos de ton déjeuner ou de ton dîner sur ta plancha, évidemment, ouais, fait en camping, on salivait tout le monde et on se disait « Ah, oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon. »
Et c'est le cas de le dire, on y prend goût. Et vous savez, ouais, Thérèse, qui a été mon mentor?
Oui.
C'est Ricardo.
Oui, c'est vrai.
Parce que Ricardo m'a dit « Si on part du principe qu'on n'est pas bon en cuisine, ça, c'est comme la danse. » On dit, je suis incapable, je ne suis pas danseur. Tout ça. En cuisine, il m'a dit, il faut faire beaucoup d'erreurs et apprendre de tes erreurs.
Donc, c'est essai-erreur.
Exactement. Essai-erreur. Et finalement, tu réussis des choses qui sont très comestibles.
Bien, pas tout le temps.
Bien, pas tout le temps. Non, pas tout le temps.
Je parle pour moi.
Plus tard, les affaires du sport avec Ray Lalonde. Savez-vous que ce n'est pas fait encore les Jeux de Tokyo? Qui doivent débuter le 23 juillet parce que la situation de la COVID et de la transmission du coronavirus est vraiment inquiétante au Japon.
On est en train de perdre le contrôle.
On est en train de reperdre le contrôle, ou en fait de confiner. Oui. Et on est à moins de 3 mois de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux déjà reportés d'un an. Alors, il sera question de ça, notamment. Mais tout de suite, quel bonheur que d'aller retrouver un dimanche matin Richard Châteauvert à New York. Bonjour, Richard.
Bonjour, Paul. Ça va très bien ici. Il ne fait pas très beau.
Non, mais nous, on va avoir de la pluie. Et quel genre de temps vous avez, là?
C'est un temps langoureux.
Ben alors, c'est un... Non, mais...
J'aime ça.
Alors, Richard, si vous n'êtes pas au courant, là, depuis ce matin, on parle de la langueur. Mais c'est un nouveau terme.
Bien sûr que je suis au courant.
Ben, vous êtes au courant.
J'ai des bonnes sources.
Et en anglais, Richard, c'est le languishing.
Oui, mais écoutez, je viens de faire une recherche dans le dictionnaire, mon grand Robert, et ce que j'aime, c'est qu'il y a une différence de sens entre le nom langueur et l'adjectif langoureux. La langueur, c'est une mélancolie douce et rêveuse, une tristesse vague, tandis que langoureux, ça signifie qu'il évoque la langueur amoureuse ou y invite. Donc, c'est mieux d'être langoureux que d'être dans un état de langueur.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais Thérèse a trouvé un bon parallèle parce que Mario Girard a écrit un bon article dans la presse de ce matin, puis il était d'accord avec le fait. Thérèse a comparé ça à une sorte de léthargie aussi. Une sorte de léthargie de l'âme également.
C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, c'est pour beaucoup de gens, c'est la léthargie de ne pas faire du shopping, de ne pas faire du
Mais voyez, c'est ça l'affaire. Mais c'est dangereux, ça. Parce que vous devenez soudainement, vous voulez combler cette espèce de petit vide là, en allant consommer.
Et ça, c'est très nord-américain.
Moi, je vais magasiner à New York, généralement, ces temps-ci, là. Alors, cette année, j'économise un montant, écoute, fabuleux.
Oui, parce que Thérèse, quand vous êtes aux States, comme disait ma tante, j'avais une tante qui disait, on va aller aux States.
À New York,
Vous ne regardez pas la dépense.
Oh, j'aime ça. Je me paye la traite.
Ça, Richard, c'est une grande dépensière parce que je l'ai vu parce qu'on est allé en road trip ensemble et puis on s'est promené un peu partout. Puis elle arrivait dans n'importe quelle ville. Il fallait qu'elle ramène plus que des souvenirs. Elle est, comme on dit, dépensière.
Et c'est parce que les États-Unis, c'est le pays de l'abondance, Paul.
Oui, oui.
Puis New York, c'est le meilleur endroit au monde pour faire du magasinage. On a tout. On a évidemment les grandes marques, les marques les plus chères, mais on a des magasins discount. Moi, j'ai une chaîne de magasins des vintage thrift shop où tout est d'occasion, mais c'est des objets ou des chemises que les gens n'ont pas portées. Il y a tellement de gens riches ici qu'ils renouvellent leur garde-robe à toutes les saisons. Donc, ils font don de leurs vieux vêtements. Leurs vieux vêtements, ils ont été portés 3 ou 4 fois. Il y a moyen d'acheter ici, là, cher et pas cher.
Et pas cher.
Tu peux t'acheter une petite veste.
Dernier
Chanel,
plaisir
là.
Avant qu'on plonge dans un sujet qui va vous fasciner sans doute dans un instant. Moi, un de mes plaisirs, Richard, c'est d'aller marcher tard le soir à New York et de voir des boutiques d'électronique qui sont encore ouvertes là à minuit. Minuit et demi. Et ça regorge d'appareils électroniques et tout ça. C'est...
Vous voulez dire près de Times Square.
Près de Times Square, exactement.
Mais encore une fois, il faut faire attention. Il ne faut pas acheter dans ces boutiques parce qu'il y a beaucoup d'arnaques.
Il y a beaucoup d'arnaques, vous avez raison.
Je sais ce que vous voulez dire. Ce sont des boutiques qui sont ciblées justement sur les touristes.
OK. Alors, sujet et qui fascine également Thérèse parce que je lui ai envoyé le courriel cette semaine. On commence à parler de façon plus sérieuse du phénomène des ovnis. Le phénomène des ovnis, on en parle de façon sérieuse. Un cinéaste a publié en ligne des images, plutôt ce mois-ci, d'ovnis. Des images qui ont été prises par des membres de la marine américaine. Et le Pentagone a confirmé l'authenticité de ces images, Richard.
C'est ça qui est remarquable. Le Pentagone a confirmé l'authenticité de ces images. Ce sont des images qui datent de juillet 2019, qui ont été prises par les membres d'équipage du destroyer USS Russell au large de San Diego. On voit sur la vidéo 3 objets ayant la forme de pyramide. Et vous savez qu'il y a un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés au Pentagone. En fait, il faut que je vous dise que ça fait depuis 1947 que l'armée de l'air a commencé des études sur les ovnis. Il y a eu un programme de 1947 à 1969. Ensuite, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en 2007, il y a Harry Reid, qui était leader de la majorité démocrate à la Chambre au Sénat plutôt, qui avait obtenu l'insertion dans le budget de 22 millions de dollars, mais caché, dissimulé, secret. Il avait consulté 2 autres sénateurs, ils ont inséré ça dans le budget, et ça c'était pour établir un programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Et il y a un groupe de travail actuellement qui s'appelle le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Ce qui est remarquable, c'est que au mois de décembre, le président Trump, qui était toujours président à l'époque, a promulgué une fameuse loi sur le coronavirus qui prévoyait le versement de chèques de $600 à chaque Américain. Et ici, dans les projets de loi, on insère toutes sortes de mesures qui n'ont rien à voir avec le projet de loi et on a inséré l'obligation pour le directeur national du renseignement de faire rapport aux Américains d'ici 6 mois. Donc, d'ici au mois de juin, le directeur national du renseignement doit faire un rapport sur tout ce qui concerne les ovnis. Qu'est-ce qu'on sait sur les ovnis? Donc, il y a plus d'ouverture. Déjà l'an dernier, on avait publié, il y a presque un an, jour pour jour, au mois d'avril 2020, on avait publié des images prises en 2004 et 2015 d'objets volants non identifiés. Il y en a un qui faisait une rotation contre le vent. Et là, on entendait les pilotes d'avions qui étaient impressionnés, qui étaient confus. Donc, écoutez, il y a des gens qui pensent que ce sont des extraterrestres, mais les scientifiques disent, écoutez, si on sait pas d'où viennent ces objets, ça ne signifie pas nécessairement que ce sont des extraterrestres.
Non, c'est ça.
Ça ne signifie pas... Ça pourrait être des objets qui proviennent d'autres pays. Peut-être que la Russie a un programme. Je suis sûr que les sept services de renseignement américains, si la Russie a un programme,
ils doivent
le savoir.
Mais Thérèse, nous autres, on a des secrets.
Mais vous, Thérèse, ça vous intéresse parce que vous devriez voir l'endroit, Richard. Thérèse a un ciel extraordinaire pour tous les astronomes amateurs. Vous voyez la Voie lactée chez vous.
Ouais, mais
avez-vous des ovnis de temps en temps qui passent?
Non, des ovnis, non, mais des objets volants non identifiés. C'est-à-dire, oui, des ovnis.
Ben oui.
Oui.
Vous avez vu.
Des choses que tu n'expliques pas, tu sais. Mais moi, là, ce qui me fascine, Richard, de ce que vous dites, là, ça me plaît. Moi, je veux absolument savoir. J'aimerais ça. J'ai hâte d'avoir ces détails-là. Il y a des détails.
D'ici au mois de juin, ouais. Thérèse, ça, on est censé avoir un rapport. Je trouve ça très intéressant.
Savez-vous lequel des présidents, Richard, a été le plus intéressé par le phénomène des ovnis? C'est Bill Clinton. Apparemment qu'au début de ces deux termes, il venait d'arriver à la Maison-Blanche. Il venait à peine d'être assermenté pour son premier mandat, que l'une des premières questions à laquelle il a répondu, il a dit « Oui, j'ai hâte de poser des questions sur le phénomène des ovnis, de tout ce qu'on a accumulé comme dossier.
Ah. » Ben, c'est intéressant que vous disiez ça parce que cette semaine, Jimmy Kimmel a dit à son émission que Bill Clinton lui avait dit « Si je savais quelque chose, si j'étais au courant de la présence d'ovnis, je vous le dirais. Wow. » Parce que cette semaine, Jimmy Kimmel interviewait l'ancien président George W. Bush et Jimmy Kimmel a fait allusion aux fameuses vidéos dont je viens de vous parler qui ont été diffusées il y a deux semaines. Et il lui a demandé, il dit, est-ce que ça vous surprendrait, Monsieur le Président Bush, s'il y avait des ovnis? Il a dit oui. Donc, ça veut dire que lui a dû voir des rapports pendant qu'il était président. Puis, ça semble indiquer qu'il n'a rien vu d'extraordinaire. Puis que Bill Clinton non plus n'a rien vu d'extraordinaire. Mais encore une fois, on va le savoir.
Je vous arrête, Richard, parce que je ne veux pas l'oublier. Donald Trump s'est fait poser la même question. Et Donald Trump fait partie des sceptiques. Il a fait la moue. Et moi, en voulant dire, je suis ouvert à ce que l'information soit diffusée, mais il ne semblait pas, lui, y croire véritablement que ces apparitions étaient d'origine extraterrestre. Mais lui-même en était un extraterrestre.
Oui. Si on avait appris que les extraterrestres l'aimaient, il aurait dit oui, là j'y crois.
Oui, exactement. Les ovnis, ou en fait pas les ovnis, mais les extraterrestres avaient dit Make America Great Again. Il aurait été très content. Parlant de la Californie, évidemment, je sais que j'adore aller à New York, mais vous savez très bien, Richard, que c'est mon État préféré. La Californie qui est encore aux prises avec tous les malheurs cette année concernant une méga sécheresse avec tout ce que ça implique.
Bien, la Californie, c'est un laboratoire. Hein, c'est 40 millions d'habitants. C'est toujours le futur. Ils sont toujours... Je dis toujours que là, les gens n'aimeront pas ça. Je dis toujours que les États-Unis sont 10 ans devant le Canada, mais la Californie est 10 ans devant les États-Unis. Mais enfin, c'est drôle que je vous parle de sécheresse parce qu'actuellement, il y a des averses aujourd'hui prévues à Los Angeles. Sauf qu'ils viennent de vivre le mois d'avril le plus sec, un mois encore record. Écoutez, ils ont eu 5 années de sécheresse record. Ensuite, ils ont eu des précipitations record en 2016-2017. Et depuis ce temps-là, c'est encore la sécheresse. L'an dernier, vous vous souvenez, les incendies de forêt, ils ont 4% du territoire de Californie a été détruit par des incendies de forêt. Donc, à Los Angeles, qui est une ville importante, l'eau potable vient de très loin. D'ailleurs, c'est la même situation ici à New York. L'eau vient de réservoirs qui sont situés au nord. Donc, le maire Eric Garcetti de Los Angeles a prononcé son discours sur l'état de la ville lundi. Il s'est engagé à ce que Los Angeles obtienne son énergie d'énergie propre à 98% d'ici à 2030 et à 100% d'ici à 2035. Donc là, j'en reviens à l'eau. Actuellement, on utilise les eaux usées, on traite les eaux usées, on les rejette dans le fleuve Los Angeles et dans l'océan Pacifique. Mais d'ici à 2030, le maire Garcetti souhaite que 85% des eaux usées soient transformées en eau potable. Mmh. Oui, je sais que c'est un peu difficile à accepter. Mmh. C'est pas une belle image.
Mmh.
Mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà à Singapour. Ça se fait en Namibie, en Afrique. Ça se fait dans le comté d'Orange, en banlieue de Los Angeles.
Finalement, on va être recyclable.
Ouais. Complètement. Mais tant mieux, mais si on y arrive, bien sûr.
Ouais. Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est un triple, comment dire, il y a trois étapes. Il y a une première étape, c'est qu'il y a une micro-filtration pour retirer les objets solides, les huiles, les bactéries. Ensuite, il y a l'osmose inverse et ensuite les rayons ultraviolets. Et ils font des tests actuellement à Los Angeles et l'eau est potable. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est que les eaux usées, on les déverse, on peut les utiliser à des fins d'irrigation, mais elles ne sont pas complètement pures. Mais là, on va les purifier, ça va être de l'eau potable, c'est possible, c'est l'avenir.
Alors, je vous rappelle que si, Thérèse, la ville où le bonheur se trouve au Québec est Shefford, hier, Richard Châteauvert de New York nous a dit que la ville du bonheur américain, c'est à Fremont, Californie.
Oui, Fremont, c'est John Charles Fremont, fils d'un Canadien français immigré aux États-Unis, là, au début du 19e siècle. Donc, c'est vraiment Fremont comme les Fremonts du Québec.
Et c'est une ville californienne où le bonheur se trouve.
Qui est située, il faut le dire, juste au nord de San Jose. San Jose, qui est une très belle ville, d'ailleurs. San Jose, dont Clint Eastwood a déjà été maire, vous vous souvenez?
Ah oui. Mais il avait été maire de Carmel aussi.
Non, pardon, il avait été maire de Carmel. Ouais. Je me trompe, vous avez raison. Oui. Carmel, c'est juste à côté de San Jose. Ouais. C'est une autre très belle ville.
Non seulement une très belle ville, toute la côte qui part de San Francisco, là, c'est incroyable.
Évidemment, avant le tremblement de terre.
Ah, ben ça!
Avant le prochain.
Ça, Richard, vous savez...
Le Big One.
Ça, non, mais quand vous comprenez les Californiens, ils vous expliquent qu'il y a une sorte d'acceptation, de résilience, un peu comme les Gaulois dans Astérix, qui ne craignaient qu'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, quand vous acceptez de vivre en Californie, ben vous acceptez de vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès qu'un jour. Et Richard, lui, s'est très bien accommodé du fait que sa ville, New York City, n'était que 122e.
Ouais.
122e.
Oui. Puis il n'était pas d'accord avec ça, mais je le comprends.
Ouais.
Mais je peux pas croire tous ces gens riches qui ont quitté New York depuis le début de la pandémie. Vous savez, il y a des gens hyper riches, ils ont déguerpi parce qu'évidemment, là, leur restaurant était fermé, etc. Quelle erreur! Encore une fois, j'adore, je pense que j'ai cité cet ex-New-Yorkais l'autre jour. Il y avait un article dans Bloomberg et il y a un type qui a déménagé en Floride parce qu'évidemment, en Floride, il n'y a pas d'impôt au niveau de l'État. Il y a l'impôt fédéral, mais pas d'impôt au niveau de l'État. Alors, le type, il dit au sujet de la Floride, il dit « Le seul problème quand on déménage en Floride, c'est qu'il faut vivre en Floride.
» Mais c'est bien dit. C'est très bien dit. Et vous avez raison, Richard. Ceux et celles qui ont décidé de quitter New York précipitamment vont le regretter parce que New York va certainement être au cœur d'une relance, mais absolument astronomique.
Mais encore une fois, on vient dans le nouveau budget de l'État de New York, il y a des hausses d'impôts pour les plus riches. Et là, il y a Joe Biden qui lui annonce des hausses d'impôts pour les ménages qui gagnent plus de 400 000 $ par année. Donc, les gens vont maugréer, c'est sûr, mais New York va survivre et ils vont revenir à New York parce que New York, c'est une ville qui a de l'âme.
Tout à fait. Sur ces belles paroles,
merci parce que Richard m'a annoncé hier par courriel, c'est qui va animer l'édition de Saturday Night Live le 8 mai, Richard?
Elon Musk.
Et voilà, oui.
Ça va être quelque chose.
Merci pour la nouvelle,
Monsieur
Richard.
Monsieur SpaceX et Tesla, ça va être bon. Et c'est Miley Cyrus qui est l'artiste invité.
Exactement.
Aussi. Ça va faire des feux d'artifice. Bonne semaine à New York City.
À samedi prochain.
Salut, Richard.